Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur le podcast de Boxe Attitude. Donc je vous rappelle, si vous voulez les écouter hors de YouTube, vous avez trois plateformes, trois sites pour écouter ça tranquillement et pouvoir éteindre votre téléphone. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire une émission Comment va la boxe? Comment va la boxe? On revient un peu sur l'actu récente. Je suis avec Abdel, boxeur professionnel. Abdel, comment ça va?
Salut Jean-Charles, salut à toi derrière ton écran. Bah écoute, moi ça va très bien, nickel, ça se passe.
Abdel, donne-nous quelques nouvelles de toi. Donc, j'ai dit que tu étais boxeur pro. Pour toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejoint sur Box Attitude ou sur les podcasts, qui n'ont pas eu l'occasion encore de t'entendre, rappelle-nous un peu qui t'es.
Ouais, alors moi c'est Abdel Benaïcha, je suis boxeur professionnel, j'ai 7 combats professionnels, 6 victoires et voilà.
Et qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment?
Là, en ce moment, je suis en train de préparer un combat professionnel dans ma ville. C'est mon combat de reprise après à peu près pratiquement 3 ans que j'ai pas boxé.
Bah tiens, justement, on va voir un sujet auprès d'un. On va parler d'un boxeur qui, comme toi, a une longue période d'absence, quasiment pareil que toi, je crois d'ailleurs. Ça va être l'occasion d'avoir ton avis aussi. Qu'est-ce qu'on peut appréhender quand on revient après une longue absence comme ça? Juste pour terminer sur toi, est-ce que par hasard on peut venir te voir? Est-ce qu'on peut assister à ton combat?
Oui, bien sûr. Bah, mon combat, il se déroule à Asnières, donc ma ville, enfin la ville où je suis né, où j'ai grandi. Et c'est le combat, ce sera le 19 novembre. Et oui, tout le monde peut venir. Les billets, c'est sur place. Donc ouais. Voilà.
Okay. Très bien. Et puis, alors ça, je l'ai dit en off à Abdel, je lui ai dit hier, j'ai confirmé que je serai présent. Et donc, on va filmer tout ça. Et donc, vous aurez un cœur de boxeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série que je faisais sur Boxe Attitude. Donc, on aura un reportage spécial sur Abdel. Et ça va annoncer des choses un peu particulières aussi avec Abdel. On vous en reparlera en temps voulu. Mais sachez que, voilà, il y aura des images exclusives. Voilà, avec Abdel, on a la chance aussi de bien s'entendre en privé, donc c'est cool, on peut faire du contenu ensemble et en même temps, on va bien rigoler. Enfin, lui, il sera sur le ring, donc il va moins rigoler que nous, mais et donc, on va bien rigoler. Voilà. Abdel, on va parler de l'actu. Comme je te l'ai dit avant qu'on commence, j'ai une petite info en plus que j'ai rajoutée, mais cette fois-ci, j'ai fait un truc un peu différent. Au lieu de prendre des infos, ou des fois Abdel aussi, on parle de ce qui nous a marqué dans les derniers jours ou semaines. Hein. Là, en fait, j'ai demandé sur Instagram aux gens de m'envoyer des sujets. En fait, c'est venu en discutant avec quelqu'un sur Insta qui m'a dit, ouais, ce serait bien de varier les sujets, si on pouvait poser des questions, si on pouvait participer. Et du coup, je me suis dit, ah, bah, écoute, sur Insta, il y a le truc, posez-moi des questions. Donc, j'ai dit, bah, allez, mettez les sujets que vous voulez. Et donc, j'ai envoyé à Abdel toutes les captures d'écran. J'ai tout listé. Donc on va prendre les uns après les autres. Donc vous allez voir, ça part dans tous les sens. On va parler des poids légers, des poids lourds, de youtubeurs boxeurs. Il y aura de tout. Et juste celle que j'ai que je vais te donner Abdel avant, c'est chez les poids mouches. Et Jesse Rodriguez, tu vois le champion WBC des super mouches. Tu vois ou pas?
Ouais, je vois.
Ouais, 22 ans, invaincu, très bon boxeur. Franchement, il avait battu. Tu sais, le Thaïlandais là, Wangek.
Ouais, Wangek, ouais.
Pas ou pas?
Oui, je me souviens, ouais. C'est il n'y a pas si longtemps, ça, en plus.
Non, ça n'a pas longtemps. Moi, je ne le connaissais pas bien, il m'a impressionné.
Ouais, pareil.
Eh bien, sache que lui, il va descendre des super mouches, il laisse sa ceinture et il va en mouche.
D'accord. Ah, c'est pas... Ok, d'accord.
Alors. Lui, officiellement, ce qu'il vise, c'est les ceintures. Alors, soit la ceinture IBF de Sonny Edwards, soit la ceinture WBC de Julio César Martinez.
Ouais. Mmh. Ok.
Ça peut être pas mal, ça peut faire des beaux combats.
Je trouve que c'est dommage, moi, qu'il descende.
Justement, dans l'article que j'ai lu, ils disent que peut-être qu'il évite un peu Chocolatito, Gonzalez ou Estrada. Juan Francisco Estrada. Mais en sachant que les deux, ils vont boxer en fin d'année. Pas en fin d'année. Si, en fin d'année. Ils vont boxer en fin d'année. Ils vont faire le troisième combat. Moi, ce que je me dis, c'est est-ce qu'il se dit que c'est pas un peu fermé la caté et qu'il veut quand même des défis? Parce que les petites catégories, tu as quand même moins d'opportunités, tu as moins d'argent, tu vois.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il se dit pas, je vais quand même aller défier des champions, parce que Edwards et Martinez, ils sont quand même bien connus. Et donc, je sais pas, comment tu l'interprètes, toi?
Oui, c'est possible que ça soit ça. Après, tu sais, il y a plein de choses qui entrent en compte, hein, qui entrent en compte. Ça peut être le manager ou le promoteur qui trouve que c'est une bonne idée, justement, de descendre au niveau de la catégorie pour les choses que tu as dit, le fait que y ait une confrontation avec des champions et que ça fasse des gros fights et donc que ça génère peut-être potentiellement plus d'argent, mais moi je me serais dit dans ces cas-là pourquoi pas monter au contraire de catégorie, mais je sais pas si au niveau de son poids et de sa taille si c'est peut-être un peu léger le fait de monter de caté. Il me semble en plus qu'il est jeune ce boxeur.
22 ans.
22 ans, ouais, très jeune. Donc c'est vrai que voilà, le fait qu'il ait obtenu un titre et que juste après il lâche sa ceinture et descende de caté, voilà, moi je trouve ça dommage.
Est-ce que les coques, parce que au-dessus c'est les coques, c'est pas un peu trop relevé aussi?
Bah, c'est vrai que les coqs aussi, les ceintures, enfin, Inoue, il en a 3/4 et il veut unifier là contre enfin, le combat d'unification contre Paul Butler. Donc là aussi, c'est bloqué. Donc si c'est un combat pour un titre, ouais, peut-être le fait de descendre, mais pourquoi ne pas garder sa ceinture, la défendre et voir ensuite. Enfin, est-ce que c'est pas une stratégie pour éviter Chocolatito, comme t'as dit.
Ouais, je pense que ouais, il faut creuser un peu le truc. On verra ce qu'il va annoncer comme prochain combat. S'il fait un combat direct pour le titre, ça aurait du sens. Je me dis, bon, ok, peut-être il a perdu sa ceinture, enfin il a laissé sa ceinture, mais au moins derrière, si tout de suite il va avoir une chance mondiale contre un de ses gros noms, moi je dirais quand même chapeau, tu vois. Après, monter en haut, je trouve que c'est les coqs, c'est peut-être l'une des catégories les plus relevées aujourd'hui.
Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que les coqs, en ce moment, c'est très relevé, mais est-ce que, tu sais, bon, on va voir l'avenir, mais logiquement, Inoue, après avoir unifié, enfin, s'il unifie, je pense qu'il va monter de caté. Donner, est-ce qu'il va continuer à boxer? Je pense que la catégorie des coqs, elle va un peu se vider aussi. Hein.
Ouais. Oh ouais, je suis d'accord avec toi. À voir, à voir. Bon, on va passer maintenant au sujet des abonnés. Alors, le premier, ils ont attaqué fort. Ryan Garcia, 24. Jarvante Davis, 27 ans. Donc deux boxeurs américains hyper populaires. Ils font partie des stars actuelles de la boxe, hein, clairement. C'est des gars qui sont suivis par des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et bah, ils se chauffent pas mal. Je pense que tu as dû suivre ça, Abdel, sur les réseaux. Et donc, les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des messages en me disant, voilà, c'est bon, c'est fait, ils vont s'affronter tous les deux. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche?
Ouais, bah déjà pour moi c'est pas encore fait. Tant qu'il n'y a pas la billetterie, et des fois même quand il y a la billetterie, il peut y avoir des galères de dernière minute, mais tant qu'il n'y a pas la billetterie, c'est pas fait. Bon, on l'a vu là un peu avec Errol Spence, Terence Crawford. Bon, ça on en discutera après, je pense. Mais écoute, c'est vrai que c'est un combat que pas mal de gens aimeraient voir. Jarvonta Davis, c'est vrai que il y a des gens qui lui ont reproché qu'il a pas encore affronté de top top fighter. Bon, Ryan Garcia, c'est pas un top top fighter non plus, parce que lui aussi doit prouver. Donc, mais deux personnes, enfin deux boxeurs qui doivent prouver et qui s'affrontent, c'est vrai que c'est très intéressant, même si Jarvonta Davis a bien plus prouvé que Ryan Garcia. Ouais, c'est. Enfin, j'avais vu un petit peu les tweets de Ryan Garcia et apparemment il veut vraiment faire ce combat. Bon, il y a des choses qui bloquent. C'est vrai que ça, c'est un petit peu. Bon, on avait déjà parlé plusieurs fois, mais dans la boxe, c'est un petit peu le truc relou. Hein. C'est vrai qu'il y a. Il y a toujours des obstacles et les boxeurs, je pense que de la part des boxeurs en général, ils sont prêts à s'affronter, ils veulent s'affronter, ça bloque ailleurs. Et c'est vrai que c'est dommage parce que ça nous empêche d'avoir des super fights où quand on les a bien trop tard.
Alors, Gervonta, lui, il a quand même le mérite d'avoir été champion du monde en super plume, si je dis pas de bêtises. Super plume, il a détenu une ceinture, une vraie ceinture de champion du monde. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il avait un titre quand il a battu Leo Santa Cruz, parce qu'il y avait des ceintures de deux catégories, mais Leo Santa Cruz avait la ceinture WBA, hein, si je me souviens bien. Donc, Gervonta, moi, ce que je lui reproche aujourd'hui, c'est d'aller vers des combats vers la facilité en fait. Comme c'est une star et qu'il remplit des salles, il nous fait un peu une carrière à la Mayweather fin de carrière où tout est bien calibré, il va faire du pay-per-view. Son dernier combat là contre Romero aux États-Unis, les gens étaient comme des fous. Les gens étaient comme des fous de ce combat-là. Nous, on se rend pas compte ici, tu vois, on est loin, tu vois, on n'est pas dans l'effervescence. Mais là-bas, les gens, ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Et donc, du coup, il n'a pas besoin d'aller se confronter au meilleur de la catégorie. Il peut faire sa carrière un peu en parallèle. C'est un peu ce que j'avais dit dans une vidéo. Il fait sa carrière en parallèle. Et ce qui est dommage, c'est que bah, on passe à côté des meilleurs combats. Là, pour le coup, Ryan Garcia, il fait quand même partie des noms de cette génération. Tu vois, que tu l'aimes ou pas, voilà, tu peux lui reprocher des choses. Il fait quand même partie des noms de cette génération. Donc, en soi, j'ai pas trop à critiquer cette affiche-là. Tu vois, elle est attractive, ils sont jeunes tous les deux. Allez, ben, faites plus ce combat-là, tu vois. Donc ça... Après, je vois pas l'intérêt pour Garcia, parce que moi, je trouve que Garcia, il est pas au niveau, clairement. Et à part à l'argent, il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a rien. Je me dis, je vois pas pourquoi Garcia, il signerait ça. Donc pour moi, je pense que c'est du vent.
Oui, je pense aussi, surtout qu'en plus, Garcia, c'est pas la première fois. Il y avait eu un espèce de truc avec Pacquiao, avec il y a eu plusieurs fois des rumeurs, alors, je sais pas si ça a été vraiment au stade de négociation ou pas, mais c'est pas la première fois qu'il tweet et qu'il parle du fait qu'il veut boxer un tel ou un tel et que au final ça se passe pas. Après, bon, je pense que des deux côtés, il doit y avoir une gestion de carrière, des gens qui gèrent bien leur carrière. Et c'est vrai que bah Ryan Garcia, il est jeune hein, quand même. Il a quel âge? 24 ans?
24 ans, super jeune.
24 ans, il est très, comment dire, il est, enfin, bon, il y en a beaucoup qui disent champion d'Instagram. Bon, c'est quand même un vrai boxeur et il l'a prouvé quand il a boxé Campbell. J'ai bien aimé ce combat. C'est vrai que au niveau de, je pense que sa carrière, elle doit être bien gérée et ils doivent lui faire quand même éviter certains boxeurs, lui faire éviter de prendre certains risques. Et c'est pour ça que je pense que Gervonta Davis, à mon avis, ça se fera pas. Je pense pas que il prendrait le risque. Ceux qui s'occupent de sa carrière prendraient le risque de le faire boxer Gervonta Davis. Je crois pas.
Ouais, surtout qu'en plus, il a annoncé qu'il resterait en super léger. Je vois pas pourquoi, d'un seul coup, il redescendrait en léger, défier un boxeur aussi dangereux que Gervonta. Après, bien sûr, encore une fois, toi comme moi, on sait que l'argent, si tu mets une très grosse somme sur la table, ça peut aider à convaincre, tu vois.
Oui, bien sûr.
Moi, j'ai bien aimé Garcia, son dernier combat. Je l'ai trouvé très mature dans sa boxe, très sûr de lui. Plus tempéré. Non, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une progression. Autant son combat retour, bon, c'était un combat retour. Un peu, on sentait qu'il était pas encore, il n'avait pas encore bien repris ses marques. Mais au dernier, j'étais impressionné. Moi, Gervonta m'a beaucoup plu à son dernier combat. Je sais qu'il a été critiqué, mais moi, je l'ai trouvé impressionnant. Voilà, il a encore plus parfait son style. Maintenant, il faut donner des oppositions. Encore Garcia, on peut dire qu'il a un peu de temps. 24 ans, c'est jeune. Moi, je pense que Gervonta, voilà, il faut que maintenant il marque sa génération. J'ai rien de plus à dire. Tu veux rajouter quelque chose?
Non, c'est bon, un spécial à rajouter.
Du coup, on va passer. Alors là, on passe des légers au poids lourd. On fait un saut de poids et c'est quasiment le double.
Ouais.
Alors, on m'a parlé de, oui, le fameux Tyson Fury, 34 ans, champion de WBC. contre Oleksandr Usyk, 35 ans, champion WBO, WBA et IBF. Alors, bon, petit résumé des faits. Tyson Fury, après sa défense de titre contre Dillian White, on ne savait pas trop ce qu'il allait nous sortir. D'ailleurs, moi, j'ai complètement arrêté de suivre tout ce qu'il dit parce que c'est possible. Mais la WBC lui avait laissé un temps pour prendre sa décision. Il est toujours champion du monde WBC officiellement. Donc, c'est qu'il a dit que, je pense, ça veut dire qu'il va, il va refaire une défense. Enfin, non, je suis fou, moi. C'est que, il savait qu'il allait annoncer sa future défense parce que, ça y est, on l'a su il y a une semaine, là, même pas que ça s'est officialisé il y a une semaine, qu'il va prendre Derek Chisora. On sait qu'il voulait Joshua ou Usyk. Il voulait les deux, mais Usyk, il a déclaré qu'il ne boxerait pas avant l'année prochaine. Il avait besoin, et on peut le comprendre, hein, vu ce qui s'est passé cette année, dans les conditions dans lesquelles il a dû faire sa défense de titre, pour ma revanche contre Joshua, ça peut se comprendre qu'il a peut-être besoin aussi d'un petit peu de temps pour lui, je peux l'entendre. Et donc, Fury, suite à ça, a annoncé son combat contre Derek Chisora en fin d'année. Est-ce que tu crois qu'on va l'avoir en 2023, ce combat-là?
Fury Usyk, oui, moi je pense que ça peut se faire en 2023. C'est vrai que voilà, les derniers mois, Tyson Fury, il est un peu parti en vrille en disant, avec toutes sortes de déclarations, et en fait on savait pas ce qu'il allait faire, quoi. Un coup il se met en retraite, un coup il dit qu'il va boxer, qu'il veut boxer Joshua, un coup Usyk, etc. Mais moi je pense que ouais, c'est un combat qui peut se faire en 2023 et qui va se faire. Il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est les poids lourds et c'est une unification totale et c'est deux champions qui sont invaincus et qui sont un peu extraordinaires dans leur boxe. Donc je pense que ouais, c'est un combat qu'il faut qu'on voit et qui va générer de l'argent. Donc je pense que ça va se faire.
Qu'est-ce que tu as pensé de l'annonce Fury Chisora 3?
Bah, je pense comme tout le monde, hein. C'est pas une annonce qui nous a enchanté. Il a mis un ultimatum. Moi, j'aime beaucoup hein, Tyson Fury. Mais bon, c'est vrai que voilà, il a mis un ultimatum à Joshua. Il lui a laissé une certaine date pour après combattre Chisora. Bon, c'est vrai que Chisora, en plus, il l'a déjà battu deux fois. C'est pas un combat. Je pense qu'il hype les gens.
Tant qu'on puisse dire.
Ouais.
On est passé de Joshua à Chisora quand même. Il y a quand même des descentes.
Oui, ouais, bah oui, c'est sûr. C'est autre chose.
Bon, écoute, on va pas s'attarder sur ça. autre info. Alors là, qu'est-ce qu'on m'a envoyé des messages? Terence Crawford, 35 ans, champion WBO des poids welter, pourrait affronter David Evanesian, 34 ans, champion actuel EBU. Donc bien sûr qu'il laisserait sa ceinture EBU en Europe des poids welter. Il est 10e boxrec. Et donc, bah, tout le monde me dit, bah voilà, le combat contre Errol Spence, c'est foutu pour cette année. Qu'est-ce t'en dis?
Bah moi je pensais que déjà ce combat là contre j'arrive plus à dire son nom là, je pensais que c'était acté, c'est pas encore signé le combat contre le gars là
officiel.
C'est vrai, ah c'est pas officiel, d'accord. Bah c'est vrai que c'est très frustrant parce que apparemment les négociations elles avançaient dans un très bon stade et il paraît, bon on sait jamais qui dit vraiment la vérité, mais apparemment l'autre camp reproche que Crawford il a dit que c'était mort, il avait déjà l'autre combat de prévu. C'est un combat où Terence Crawford il va prendre beaucoup d'argent apparemment, 10 millions. Et je crois que c'est la plus grosse somme, hein. Je crois qu'il a jamais pris cette somme-là pour un combat, il me semble. Et c'est vrai que c'est très frustrant parce que Crawford Spence, c'est un combat que les gens attendent depuis des années. Mais encore une fois, ça bloque au niveau des négociations. Et c'est vrai que voilà, c'est ce qui tue un petit peu la boxe, c'est ce qui complique vraiment dans les confrontations. Là, il va combattre un adversaire, je pense que beaucoup ne connaissent pas, et c'est un combat qui est pas intéressant parce que Crawford, il a je sais pas, 2-3 classes d'écart. Alors l'autre, bon, faut jamais sous-estimer un adversaire, mais c'est vrai que enfin là, y a pas d'intérêt quoi. Ça, je crois que sa victoire notable à l'adversaire de Crawford, c'était Shane Mosley en 2000, 2016 ou quelque chose comme ça, 2015, 2016. Bon, c'est vrai que c'est pas. Après, il est que sur, il est sur une série de victoires, mais bon, c'est pas intéressant, quoi.
J'ai entendu aussi cette histoire de 10 millions là, bon, c'est à confirmer. Hein. Et
Ouais.
quand tu m'as dit ça, bah franchement, je me suis dit, je comprends. Je comprends parce que, en vrai, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur boxeur actuel, toutes catégories confondues. Et le mec, il n'a jamais été payé à sa juste valeur.
Exactement, ouais.
Jamais été payé à sa juste valeur. Donc, oui, là, certes, ça fout les boules parce qu'il y a ce combat qu'on attend tous contre Errol Spence. Mais franchement, comment lui reprocher? On est tous là à dire, enfin tous, discours qu'on entend. Ouais, mais les youtubeurs, ils prennent de l'argent, on va pas leur reprocher de prendre de l'argent. Ouais, je vais pas reprocher à Terence Crawford de pouvoir prendre le plus gros cachet de ta vie, tu vois. Et bon, bien sûr, son adversaire, comme tu l'as dit, il va se faire bouffer. Sa victoire, c'était contre, c'est bien ce que je pensais, c'est Josh Kelly. Il avait battu Josh Kelly, là, qui était la
Oui,
pépite.
Josh Kelly aussi, ouais.
Et t'as dit, il s'est fait battre par Lemon Patterson en 2017 et il a battu Sean Mosley en 2016. Ouais, c'est ça. Donc, à voir, hein, faut voir quel état il va être à ce moment-là. Mais bon, c'est vrai qu'on a un peu d'espoir qui propose
Ouais. Trop Crawford,
Masterclass.
franchement, moi, je crois pas, moi.
Donc, ça devrait être un combat assez facile, entre guillemets. Hein, un combat facile, mais. Un gros écart de niveau, mais je peux comprendre, voilà, la déception du public, c'est sûr, mais écoute, hein, quand on voit qu'il y a Tyson Fury, Chisora, mais c'est vrai que là, coup sur coup, ça.
Ouais, c'est vrai que ouais, c'est une accumulation là.
Mais bon, autant Tyson Fury, qui s'est mis tellement d'argent dans les poches en prenant déjà Dylan White, et avant, puis il y a tellement mieux à faire que Chisora, qu'il a déjà affronté. Deux fois, tu vois.
Ouais,
Bon,
deux fois.
là, il prend le champion d'Europe. Ça s'explique, c'est différent. Tu vois. Pour moi, c'est pas comparable, les deux. C'est pas comparable. Et puis, voilà, Terence Crawford, si pour une fois, il peut se faire un cachet. Et encore, on est loin des cachets des poids lourds. Hein. Loin.
Et c'est vrai que comme tu dis, Terence Crawford, c'est le boxeur qui quand même n'était pas reconnu à sa juste valeur et qui avait des problèmes avec son promoteur, avec Bob Arum. Maintenant, il est plus justement avec son promoteur et voilà, s'il peut se prendre une bonne somme pour combattre, tant mieux. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même frustrant parce que voilà, c'est un combat qu'on attend depuis des années et qu'on veut voir, quoi.
C'est vrai que s'il prend une telle somme en affrontant juste David Evanescence, attention, hein, vous voyez ce que je veux dire quand je dis juste David Evanescence, s'il se prend une grosse somme en affrontant ce boxeur-là, qui est vraiment pas connu, ça peut être aussi tel. Il peut le prendre en disant j'envoie un petit pic à Bob Arum pour dire, tu vois, sans toi, je fais un combat comme ça et je gagne 10 millions. Tu vois, ça peut être un message à le dire, c'est aussi un pic, tu vois, quelque part. Bref, on va passer à un autre nom qui est sur toutes les bouches, alors qu'il n'a pas boxé depuis le 14 mai 2022. C'est Tony Oka, 30 ans. Et souvent, je reçois des messages me demandant, mais dis-nous, qu'est-ce que devient Tony Oka? Et moi, j'en sais rien. Tony Oka, jusque-là, il ne s'était pas beaucoup exprimé pour la boxe. Alors, on a vu qu'il était à droite, à gauche. Plutôt les magazines People faire des sujets sur lui. Et puis là, ça y est, il est de retour à l'entraînement de l'autre côté de l'Atlantique. Il a emmené avec lui son pote Saad Farhad. Donc ils sont tous les deux en camp d'entraînement. On a vu les images, donc ça mouille le maillot. Qu'est-ce que tu as à en dire, Abdel?
Oui, c'est vrai que depuis sa défaite, on n'a pas, enfin, il n'y a pas de nouvelles pour un prochain combat. Il paraît que son retour, il va être aux États-Unis, c'est ça? Il me semble. Bah, écoute, bah, moi, je lui souhaite que de bien revenir et de performer. C'est vrai que voilà les gens enfin il y a beaucoup de gens qui l'attendaient au tournant et qui attendaient juste voilà la première défaite pour critiquer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'apprécient enfin ne reconnaissent pas Tony Oka à sa juste valeur et l'apprécient pas. Et c'est vrai que voilà bah, dès qu'il y a eu la première défaite, il y en a qui se sont donnés à cœur joie pour critiquer, moquer, et voilà, et dénigrer Tony, mais voilà, hein, c'est la boxe, hein. La boxe, tu peux gagner, tu peux perdre, tu peux gagner par KO, tu peux perdre par KO, et voilà, mais tu montes sur le ring et tu fais ton combat avec le cœur. Donc c'est vrai que moi je trouve toujours difficile. Bon, c'est les critiques, c'est enfin, ça fait partie du sport, ça fait partie même de la vie. Mais voilà, je trouve toujours quand même difficile les critiques. Enfin, c'est facile d'attaquer une personne quand elle est à terre. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai je comment dire, je pense que ça, enfin ça a dû bien le motiver et il va bien se préparer pour son prochain combat. Et la boxe, c'est ça, hein. Quand on regarde les histoires de boxeurs, t'as tellement de boxeurs qui voilà qui ont eu leur défaite et qui après sont revenus encore plus forts, encore meilleurs. Et une défaite, ça, des fois, ça te remet bien en place et ça te motive encore plus. Donc bon, on va voir pour la suite de sa carrière, et c'est à la fin du livre qu'on peut le juger. Donc on verra dans quelques années, s'il a fait champion du monde ou pas, et si, bah, au final, voilà, si c'était un vrai champion ou pas. Mais c'est vrai que là, c'est facile de critiquer dès la première défaite, sachant qu'en plus, son adversaire, c'était un bon boxeur, quoi.
Cette année de Tony Yoka, cette défaite et le fait qu'il n'ait pas donné de nouvelles, tu vois, qu'on sache pas vraiment ce qu'il va faire pour son retour, est-ce que ça a changé tes attentes, entre guillemets, on va dire, de lui et de sa carrière?
Non, pas spécialement. Ça, non, ça, tu sais, c'est, comment dire, il est retourné au boulot, quoi. C'est juste quand tu, il a pris sa défaite, je pense qu'il a dû la digérer, l'accepter, et il est reparti au boulot et il s'est mis, comment dire, comment on peut dire ça, il s'est enfin, il l'a joué peut-être un peu en discrétion. Tu vois, travaille en silence, la réussite se chargera du bruit. Je crois que c'est ça la phrase. Donc c'est ce qu'il fait. Il travaille en silence et il prépare son retour. Moi, ça me surprend pas.
Okay. Allez, j'enchaîne parce qu'on n'a pas fait beaucoup de sujets, il y a encore beaucoup de encore beaucoup de
Ouais.
questions. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé qui sont les punchers les plus célèbres. J'ai un peu reformulé et il m'a demandé de faire un sujet avec Vincent. Alors, je vais répondre à cette personne que j'avais déjà fait en fait une vidéo des plus gros punchers. Il y a un
Okay.
moment avec Vincent, justement, c'était à Millau, on donnait chacun notre top 5, je crois. Et ensuite, j'ai refait récemment une vidéo sur le plus gros puncher de la boxe. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et bah, juste demander à Abdel, je profite que tu es là avec moi, quel est ton puncher préféré?
Mon puncher préféré? Pas évident. J'ai vu ta vidéo quand tu parlais de Chavers. C'est vrai que lui, apparemment, c'est un sacré puncher. Bon, allez, c'est pas mon puncher préféré, mais je vais citer Wilder parce que c'est vrai que Deontay Wilder, le punch qu'il a, c'est vraiment incroyable quand on regarde au vu de ses adversaires. Il a fait tomber tout le monde. Et mec, c'est vrai que c'est un punch qui est incroyable. Je vais prendre Wilder, ouais. On va dire Wilder.
Prochain sujet, c'est intéressant, ça mériterait sûrement qu'on s'y attarde plus longtemps, mais la question est sympa. On va quand même prendre le temps, quelques minutes avec Abdel pour en parler. C'était boxeur anglais versus boxeur américain. Qui sont les meilleurs aujourd'hui?
Moi, je dirais toujours boxeur américain. Pour moi, c'est les Américains qui dominent. Là, si on regarde au vu des titres et au vu des champions ring, à mon avis, il doit y avoir. Enfin, oui, c'est sûr. Je pense qu'il doit y avoir plus d'Américains que d'Anglais. Mais c'est vrai que, ouais, les Anglais. Bah, si on regarde, enfin, ça dépend des catégories. Mais par exemple, si on regarde la catégorie des poids lourds, là, oui, on peut dire que les Anglais domine. Mais moi je dirais boxeur américain quoi, parce que c'est vrai qu'on a quand même des on a des belles pépites et il y a toujours des il y a toujours un vivier en Amérique, c'est le pays de la boxe. Angleterre aussi, mais bon.
Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense que tu as bien résumé la question parce qu'il y a le truc déjà de la culture. La culture boxe aux États-Unis, c'est quelque chose, le sens du show, du spectacle et tout. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Après, il y a le truc des titres. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu regardes dans l'ensemble des catégories, les titres, c'est encore dominé par les Américains. Tu as des pays qui se défendent bien, comme le Mexique, qui a énormément de champions, les Japonais. Énormément de champions aussi. On sous-estime souvent le Japon qui est un petit pays, mais qui a beaucoup de champions, surtout sur les petites catégories. Après, voilà, t'as des pays qui sont toujours forts comme la Russie, tu vois, qui ont souvent des champions. Après, ça fluctue. Et bien sûr, l'Angleterre qui aujourd'hui, souvenez-vous, quand Fury devient champion de WBC, ils ont toutes les ceintures poids lourds sont chez les Anglais. Parce que c'est Joshua, le champion à ce moment-là. Donc, à une période, ils ont détenu tous les titres poids lourds. Et sachant que les poids lourds, c'est quand même la vitrine de la boxe, c'est-à-dire que c'est le sport, c'est la catégorie populaire. Ça, tu vois, on peut pas y remédier. Et si tu regardes les poids lourds, ils ont un vivier de poids lourds. C'est impressionnant. Et chaque génération, ils ont des poids lourds. Tu vois, là, ils ont la nouvelle génération des JO. Ils ont Clark, là, qui sort de cette génération-là. La génération avant, ils avaient Joyce, la génération encore avant, c'était Joshua. Tu vois, ils ont toujours, quasiment à chaque fois, un mec en finale. Tu vois, c'est impressionnant. Non, les Anglais, c'est hyper impressionnant. Et ça t'apporte aussi beaucoup de popularité. Et franchement, si on regarde les galas qu'ils nous ont fait post-Covid, les Anglais, et les premières soirées sur le jardin de Eddie Hearn, oh là là, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Donc, non, c'est impressionnant. Donc, bon, mais ça mériterait franchement qu'on ait des chiffres, en fait, qu'on s'appuie sur des chiffres. Et donc, pour ça, il faudrait que je travaille un peu plus. Il faudrait que j'aille répertorier tous les champions et tout. Une autre question, voilà, on enchaîne les sujets un peu plus vastes, hein, qui ne sont pas des sujets d'actualité. Donc, ça ne correspond pas vraiment comment va la boxe. Mais comme c'est la première où je demande un peu les questions des gens, je tenais à survoler un peu tous les sujets. Et les prochaines fois, Abdel, je ciblerai vraiment les questions d'actualité. Les sujets, pas les questions, parce que des fois, il y a des mecs qui mettent juste un nom, tu vois. Donc, mais c'est
Mais c'est une
d'actualité.
bonne idée hein, d'avoir fait ça. Franchement, c'est pas mal.
C'est cool. Mais là, franchement, c'est vrai que ça fait beaucoup pour une première. Vas-y, ouais, on enchaîne, il sera long, les gens, ils aiment bien quand c'est long, et puis voilà. Alors, la question est, les choses qui rendent la boxe amateur kiffante. Alors, c'est le seul où j'ai pas reformulé. Je l'ai pris tel quel. Hein. Il l'avait écrit comme ça. Les choses qui rendent la boxe amateur kiffante. Je te laisse répondre à cette question.
Bah alors moi, le premier truc qui me vient tout de suite, c'est le fait de boxer en fait. En amateur, tu boxes. Tu peux enchaîner les combats, tu peux boxer toutes les semaines, tu peux boxer, tu peux même faire des fois des tournois sur plusieurs jours. Et bah en fait, quand t'es boxeur, quand tu fais de la boxe, ce que tu veux vraiment faire, c'est boxer. Donc ce qui est kiffant dans la boxe amateur, c'est que tu peux enchaîner les combats. Le palmarès, je t'en fiche un petit peu, victoire, défaite, c'est pas, ça a pas un impact aussi important que quand t'es boxeur pro. Et quand tu es boxeur pro, pour combattre, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout en France, pour boxer, c'est très très compliqué. Il y a toujours des petits soucis. Il peut y avoir des petits trucs par rapport à la fédération, par rapport aux adversaires. Et puis, enfin, c'est compliqué d'organiser un gala quand tu es professionnel, surtout en ce moment en France. Donc en amateur, ouais, franchement, le truc qui est kiffant, c'est de boxer. C'est voilà, tu te prends pas la tête, tu sais que tu peux boxer. Voilà. En plus, t'as un calendrier avec les championnats de France, les championnats régionaux, et tu peux boxer à droite à gauche. Donc ouais, ça te fait pas mal de combats.
J'aime bien ta réponse, j'aime bien ta réponse. Moi, je vais dire le fait que ça soit sur 3 rounds, ça fait
Ouais.
que les combattants sont beaucoup plus engagés dès le début du combat. Parce que comme tu as 3 rounds, il faut que tu gagnes tous tes rounds. Tu ne peux pas te permettre de laisser passer un round d'observation, 2 rounds, tu vois. Et donc, ça fait que c'est des combattants qui sont très engagés tout de suite et il y a du spectacle. Voilà, ce sera ma réponse. J'enchaîne au thème suivant. Christian Mbili, 27 ans. Qui va faire son retour en France. Ça fait un moment qu'il n'a pas boxé en France. Il est sur une bonne dynamique depuis quelques combats avec son promoteur canadien. Et il a réussi à se hisser à la seconde place des classements WBC, des super moyens. Un petit mot sur Mbili, Abdel.
Bah, c'est super. Il est deuxième WBC, il est quatrième Ring Magazine, il me semble. J'avais regardé l'autre fois. Non, franchement, c'est super. Il est à la porte d'un championnat du monde. Il est pas loin et c'est vrai que c'est un énorme bosseur. C'est un gros travailleur et il est dans une bonne team. Il s'entraîne, bah, je pense qu'il s'entraîne parfaitement comme il faut. Là, il y a une vidéo qui tourne un peu là, qu'on n'arrête pas de m'envoyer avec Arthur Beterbiev où c'est son en shadow ensemble là, en train de travailler ensemble. Ouais, non, il est dans des bonnes dispositions et il est à la porte d'un championnat du monde et c'est super. Et moi, tu sais, j'ai un ami de ma salle de boxe qui me dit depuis qu'il est passé pro, il me dit qu'il va être champion du monde. C'est mon pote boxeur Leclerc, s'il écoute, bah, ils se sont déjà boxés et tout. Et il m'a dit, tu vois, lui, il met une pièce sur lui et il dit qu'il va être champion du monde. Donc bon, c'est vrai que en tout cas, là, il est pas loin et on le souhaite en tout cas.
Ouais, on le souhaite, et puis non, tu as bien raison, c'est quand même fort ce qu'il a fait. Et puis de la team solide, c'est celui qui s'en est le mieux sorti. C'est l'un des plus jeunes en plus. Je rappelle qu'il a 27 ans, c'est pas énorme, hein, franchement, c'est pas énorme. Et donc, non, c'est bien, là il joue des coudes avec les meilleurs. Moi j'ai hâte qu'il prenne un ton et qu'il montre à tout le monde ce qu'il vaut. Il y aura aussi en sous-carte Christian Mbili. Voilà, je ne l'avais pas mis dans mes notes, mais je m'en souviens. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, hein, bien sûr, les gars. Vous inquiétez pas, on reparlera en détail de cette soirée. Mais Souleymane Sissoko qui va avoir un gros test, lui, pour le coup, qui pourrait vraiment le faire avancer parce qu'il va boxer en welter et il va boxer un vrai test, un puncher. Ça promet, ça promet. On aura l'occasion d'en reparler et ça va être un combat important pour Christian Mbili, beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Alors là, on va passer au sujet, le sujet de l'année, j'ai envie de te dire. Jake Paul versus Anderson. Est-ce que tu vas regarder ce combat?
Bah, comme à mon habitude, je vais pas regarder le combat et franchement, j'ai pas un avis. Tu vois, ça c'est bon, ça c'est mon avis à moi. Tu vois, j'ai pas, c'est pas des combats que j'apprécie, donc franchement, je vais pas regarder.
Ok. Ça sera normalement en même temps que Lomachenko. Hein. Ça, c'est les mêmes horaires à peu près. Le main event devrait être au même moment. Donc, c'est demain dans la nuit de samedi à dimanche. Tyson Fury contre Derek Chisora 3, on en a déjà parlé. Donc, je zappe. Dylan White qui va revenir après sa défaite contre Tyson Fury, justement. Après son combat pour un titre, parce que Dylan White n'avait jamais eu de combat pour un titre. Donc après avoir eu son combat pour un titre, d'ailleurs je me posais la question, est-ce que Derek Chisora, il a déjà boxé pour un titre de champion du monde? Et je suis pas sûr. Il a affronté les meilleurs de la KT, hein, les plus grands. Aussi, peut-être à l'époque où il a affronté Klitschko.
Klitschko, oui, qu'elle a boxé Klitschko, il me semble. Hein.
Environ il y a 150 ans maintenant.
Ouais.
C'était quand ça?
Ça date un petit peu, ouais.
Oui, ça date un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait plein de titres secondaires et le titre EBU quand il affronte Tyson Fury en 2014. Ils se sont affrontés pour le titre EBU.
Ouais.
Je crois que c'était déjà le deuxième combat. Quand il prend David Hay, il y avait des titres. Non, c'est encore des titres intercontinentales. Quand il prend Elenius, pareil, il y avait encore le titre EBU quand il prend Elenius. Quand même, il a une sacrée carrière. Non, mais tu vois, je crois que. Jamais combattu pour un titre. Ah si, Vitali Klitschko, le titre WBC. Ouais.
Et c'était quand?
Tu vois, c'était en 2012, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, t'imagines? Et c'est son seul titre, sa seule chance pour un titre. Donc tu vois, en vrai, quelque part, il est toujours là, il est toujours dans le top 10.
Ouais.
Non, mais. Il ne l'a pas volé, sa chance mondiale. Mais c'est vrai que, franchement, quand tu vois qu'il y a une nouvelle génération, il y a des Joe Joyce et tout qui sont là et qui ont fait le taf, tu vois, vraiment, qui ont fait le taf pour mériter leur chance, c'est un peu gros quand même. Mais bon, allez, c'était pas le sujet. On était à Dillian Whyte. Dillian Whyte, 35 ans, qui va affronter un jeune invaincu, enfin jeune, 29 ans, j'entends, mais chez les poids lourds, c'est quand même plutôt jeune, Jermaine Franklin. Écoute, t'en as entendu parler déjà de ce combat, toi?
J'en ai entendu parler. Non, c'est là, quand tu m'as parlé de l'info, j'avais pas eu l'info, moi. Ouais.
Moi, je l'ai vu passer. Je te cache pas que je l'ai vu passer, mais ça m'a pas. Je me suis pas du tout arrêté dessus, quoi. Ouais. Là, si la personne ne demandait pas dans les questions, jamais de la vie, j'en parle. Ça sera à la fin du mois prochain, dans un mois quasiment, tout pile un mois. Ouais, bon, écoutez, on va pas. Bon, en fait, c'est l'occasion pour Jermaine Franklin là de se prendre un boxeur, voilà, de se faire les dents dessus et de se faire un nom. Et Dillian Whyte, clairement, s'il le bat, bah, il bat un jeune invaincu, donc il reste. Ça voudrait dire qu'il reste quand même dans la cour. Donc il y a quand même un enjeu. On va dire que c'est quand même un combat où il y a un enjeu pour les deux. On m'a parlé de David Benavides. Alors forcément, c'est le nom qui revient inlassablement. C'est fou ce boxeur, comme il s'est fait une réputation comme ça dans l'ombre de Canelo. Et plus le temps passe, plus j'ai même l'impression qu'on parle plus de lui que de Beterbiev aujourd'hui pour Canelo.
Ouais, il y a moyen, c'est vrai. C'est vrai que c'est les deux noms qui ressortent. Il y a quelques temps, c'était plus Beterbiev. On parlait quand même. C'était le combat qu'on voulait voir. Et maintenant, on parle beaucoup de Benavides. On parle plus de Benavides, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai.
T'aimes bien Benavides? C'est un boxeur top aussi?
Oui. Très rapide des bras, gros puncher. Donc, ouais, bien sûr. Bien sûr.
Bon, défensivement, c'est pas terrible, hein. Mais il a un physique assez exceptionnel et puis il étouffe ses adversaires, c'est impressionnant comment il t'accule alors qu'il est super grand, mais il aime venir au contact et puis il doit faire mal, hein. Il doit cogner dur, hein.
Ouais, bah c'est vrai que moi je me souviens là, le KO qu'il a mis dernièrement le mieux c'est quand même un boxeur qui est solide, donc c'est vrai qu'il a battu en quelques rondes, donc ouais, c'est il doit faire mal Benavidez, ouais, c'est sûr, c'est le cas de le dire.
On va passer à j'enchaîne, hein, parce que il nous reste encore quelques sujets. Okay. Arsène Goulamirian qui va revenir, donc voilà, comme je le disais, un peu comme toi, après 3 ans d'absence, je crois. Excusez-moi, j'ai oublié de noter dans mes petites notes le chiffre exact. Il a 35 ans. Il est encore champion de WBA. C'est quand même assez fou que la WBA ne lui ait pas encore retiré son titre. Tant mieux pour lui, on ne va pas s'en plaindre. Surtout qu'il ne nous en reste pas beaucoup des champions actuellement. Et il va prendre, par contre, directement son challenger numéro 1. Donc lui, il n'y a pas comme Tyson Fury, ça ne m'a pas cherché un mec au fin fond de l'Amazonie.
Ouais.
Tu vois, une momie plutôt, enfin, de l'Égypte, une momie qui sort de son cercueil. Non, lui, il va directement prendre le challenger numéro 1 de la WBA. Alors, même s'il n'est pas connu, c'est sur le papier, c'est lui le numéro 1, donc c'est Alexei Egorov. Et moi, je t'avoue que, bon, j'ai confiance en Arsène. Arsène, c'est une bête de travail, je sais qu'il va être prêt, puis il a une mentalité. C'est pas le genre de mec où je me dis, ouais, il a peur ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je suis quand même un peu inquiet. En fait, moi, je pense qu'il y a quelque chose que les gens mettent trop de côté et qui est important chez le boxeur, c'est le contexte. Contexte dans lequel tu vas à ton combat. Tu vois, si t'es dans le mal, dans ta vie perso, si t'es pas bien accompagné, que t'as un staff de merde autour de toi, si tu vois, tout ça compte. Et là, il est champion depuis longtemps. On sait que les fédérations, elles aiment que les titres soient remis en jeu et qu'ils circulent. Donc, on va pas lui faire de cadeau. Là, ils ont quand même réussi à obtenir le combat en France. C'est bien. C'est bien. Je me fais quand même applaudir son nouveau promoteur. Ils vont faire une belle soirée française avec Kevin Delessaggio, qui a 32 ans, qui est champion d'Europe, qui va défendre son titre en super. Milan Pratt, qui a 23 ans et qui va combattre pour un titre de champion d'Europe des Super Walter. Donc, ça va être une belle carte. Franchement, on va se régaler. Mais pour Arsène, j'ai un peu les pétoches, tu vois, parce que je me dis, dans quel état il va revenir sur le ring? Et puis surtout qu'en face, il va avoir un mec qui, voilà, qui est le challenger et qui attend que ça. Qu'est-ce que t'en penses, Abdel?
Ouais, bah son challenger, ça fait longtemps qu'il a pas boxé, il me semble. Hein. Là, attends, je vais checker. Ouais, c'est vrai que comment dire, l'inactivité, c'est pas une bonne chose pour un boxeur. Mais après, voilà, je pense que c'est justement, il doit avoir faim, il doit avoir hâte de combattre. Ouais, bah son boxeur pareil, voilà, son adversaire, il n'a pas combattu depuis mars 2020
Donc
et
ça fait quelques
Arsène
mois,
depuis 2019.
sans 2019, tu vois, c'est vrai que finalement il n'y a que 3 mois, les
Ouais,
deux
donc
d'écart. Ah,
pratiquement 3 ans qu'ils n'ont pas boxé, lui ou son adversaire. C'est vrai que la catégorie des cruiserweight, c'est pas une catégorie très on n'en entend pas tellement parler. J'ai l'impression que c'est une caté qui est moins suivie en règle générale. Et c'est vrai qu'il est, comment dire, malheureusement, 3 ans d'inactivité alors qu'il est champion du WBA, c'est pas normal. Déjà, moi, ça fait pareil, ça fait pratiquement 3 ans d'inactivité pour un boxeur, déjà de base. Pour n'importe quel boxeur, c'est pas normal. Mais quand en plus t'es champion du monde, la WBA, c'est pas normal. Mais il y a encore une fois, toutes ces histoires avec les promoteurs, tout ça. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Mais moi, malgré tout, j'ai quand même confiance. Et c'est un boxeur qui a une très bonne hygiène de vie et qui est focus box, qui s'entraîne à fond. Donc c'est vrai que oui, mentalement ça peut jouer, le fait d'avoir des, je sais pas, des reports, des annulations, de ne pas combattre. Mais je pense que le jour J, il sera prêt et il va faire le travail.
Abdel, je te rends compte que tu as fait ton dernier combat en décembre 2019, comme Arsène, et tu fais ton retour le même jour que lui.
Ouais, c'est marrant ça.
Du coup, dis-nous un peu, toi, comme tu es dans ce cas de figure, tu vois, vraiment quasiment jour pour jour la même chose. Quelles sont les interrogations, toi, en tant que boxeur, tu vois, de te dire, bon, ben voilà, après cette longue absence, je remonte sur le ring. C'est quoi un peu, qu'est-ce qui peut passer par la tête?
Alors il y a plusieurs choses. Je ne sais pas si mes interrogations seront les mêmes que ces interrogations, parce que bon, chaque personne est différente et en plus c'est des enjeux différents. Moi c'est un combat de reprise, lui c'est un championnat du monde, c'est une défense de titre pour un championnat du monde, donc l'enjeu il est beaucoup plus important pour lui. Mais c'est vrai que il y a quand même de l'appréhension et ça fait quand même 3 ans, c'est énorme. Donc de reprendre le rythme, d'avoir comment dire, les bons automatismes, les bons réflexes, parce que Le sparring et le combat, c'est deux choses différentes. Quand tu as toute la tension qui est là, toute la pression, etc. Et c'est surtout la lucidité aussi, tu vois, d'être bien lucide, bien concentré dans son combat. Tu sais, moi, j'ai jamais été aussi bien quand j'enchaînais les combats. Tu vois, quand j'avais un deuxième combat qui venait un peu après le premier combat, bah, c'était là où j'étais le mieux, tu vois. Et t'es plus lucide, t'es mieux sur tes repères. Et tu sais, même au niveau de ta vision, comment dire, je crois que ça s'appelle la vision tunnel, tu vois. En fait, ta vision, c'est l'adrénaline qui fait ça, elle se rétrécit un peu, et ton champ de vision, il est un peu différent. Donc c'est vrai que de combattre, d'enchaîner les combats et ouais, voilà, d'enchaîner les combats, ça fait que, en fait, t'es plus à l'aise sur le ring, et tu sens mieux les choses, t'as des meilleurs réflexes, ton corps il réagit bien, etc. Donc ouais, c'est ce côté-là. Moi, c'est surtout sur le côté lucidité, et au niveau de voilà des coups, d'être bien dans ma boxe, quoi.
D'accord. Non, c'est intéressant. Intéressant. Ok. Bon, très bien. Bah, écoute, c'est une soirée. Qu'est-ce que tu en penses de cette soirée avec beaucoup de Français, championnat du monde, championnat d'Europe? C'est longtemps qu'on n'a pas eu une soirée aussi riche en France.
Bah, c'est très bien, c'est très bien. En plus, c'est à la salle, c'est la Palestre. Il me semble que c'était la salle où je crois que c'est là-bas où Asloum il a été champion du monde. Je me souviens plus. Mais ouais, non, c'est très bien. C'est très bien de faire des soirées boxe comme ça, un championnat du monde, un championnat d'Europe. En plus, voilà, c'est enfin, soit Arsène Goulamirian, Kevin Lesadjo et Milan Pratt, bah, c'est trois boxeurs qui ont un style offensif impressionnant, et qui ont une grosse frappe. Donc c'est il y a tout ce qu'il faut pour que ça fasse une belle soirée boxe.
Je me reprends juste, j'ai dit ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça en France, sans Tony Oka en tête d'affiche. C'est important à préciser. Donc, avec Tony Oka, ils ont quand même organisé des belles soirées où on avait des titres BU, on avait
Oui.
voilà, des belles choses. Et là, voilà, si on met ça de côté, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une soirée aussi riche. Donc, ça va être intéressant à suivre. Mais moi, je serai à supporter Abdel. J'aimerais ça. Du coup, on m'a envoyé un message, on m'a juste mis Anthony Joshua. Donc, je suppose qu'on voulait qu'on parle. Quelle suite pour Anthony Joshua, qui a 33 ans, et qui reste sur sa défaite le 20 août 2022. Est-ce que tu crois qu'il va nous faire un retour avant la fin de l'année ou c'est un peu juste?
De base, il devait revenir. Je me souviens plus ce qu'il avait, enfin ce que Eddie Hearn avait dit. Il voulait le faire boxer pas mal de fois, je crois 4 fois ou 3 fois, je sais plus, en 2023. Un combat peut-être la fin d'année. Bah, je sais pas. Je pense pas là quand même, parce que il y a pas d'annonce. Et puis à mon avis, je pense qu'il va reprendre début d'année prochaine. Bah, faut qu'il, comment dire, c'est vrai que là il a perdu une seconde fois contre Usyk. Je pense que, comment dire, Joshua, pareil, je trouve que les gens des fois sont un peu durs avec lui, parce que quand on regarde, bon, ses défaites, il perd contre Andy Ruiz et ensuite il le reprend en revanche, et après il perd contre Usyk 2 fois. Mais Usyk, c'est pas n'importe quel boxeur, c'est un boxeur qui sort du lot parmi, je sais pas moi, peut-être toutes les années qu'on a eu boxe en poids lourd. Usyk, c'est pas n'importe quel boxeur. Donc c'est vrai que il perd, oui, mais pas face à n'importe qui. Et en plus, il a pris sa revanche contre Ruiz. Je pense que Joshua, s'il boxe Usyk, je sais pas, peut-être 10 fois, 10 fois, il perdrait. Pareil face à Fury, je pense que Joshua, moi je suis sûr à 100% que Fury battrait Joshua. Mais à part ça, c'est quand même ça a quand même été un champion du monde. C'est un boxeur qui mérite son crédit. Et je pense que ouais, il va revenir. Ça va être la route, elle va être compliquée pour lui. On aimerait voir un Wilder Joshua. Ça parle aussi de ce combat. Moi, j'y crois pas trop. Je pense pas que ça va se faire tout de suite. En tout cas, pas début 2023. Surtout qu'en plus Wilder, il va sûrement combattre Ruiz. Ouais, c'est vrai que non, Joshua, c'est bon. Il a une petite traversée du désert et il doit revenir, quoi.
T'aurais une préférence entre Joshua Wilder ou Joshua Fury?
Franchement, Joshua Wilder, ça serait beau pour le spectacle. Ce serait un beau combat. Mais Joshua Fury, moi, c'est un combat que je voulais depuis longtemps. Et ça fait longtemps que, tu sais, quand Joshua, il était champion, etc. J'étais du côté de Fury et j'étais toujours persuadé que Fury, il allumerait Joshua s'il le boxait. Donc, pour l'histoire, pour finir le truc, j'aimerais bien Joshua Fury.
Ok. Moi, j'aimerais bien.
Passe à la retraite.
Moi, j'aurais une préférence. Alors, je t'ai pas posé la question, mais moi, j'aimerais bien voir Joshua contre un boxeur de la nouvelle génération. Tu vois, qu'on voit enfin les de l'ancienne génération, ancienne façon de parler, hein, contre les nouveaux. Tu vois, Joshua Gutt, c'est vraiment un truc que j'aimerais voir.
C'est vrai.
Alors ensuite, on a le 5 novembre, donc ça approche, hein, c'est dans peu de temps, Dimitri Bivol, 31 ans, champion WBA, qui va défendre son titre contre Gilberto Ramirez, qui a 31 ans lui aussi, donc ils ont le même âge. Et alors j'ai noté, cette fois-ci, vous allez voir, je ne l'ai pas dit avant, mais pour eux, j'ai noté leur ratio de victoire KO. Ils sont tous les deux invaincus. Hein. Dimitri Bivol, c'est 20 victoires, 11 par KO. Ramirez, c'est 44 victoires, 30 par KO. Donc, le gars cogne. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on va vraiment une position, un technicien contre un puncher. Est-ce que c'est une affiche qui t'intéresse, Abdel?
Ouais, bah, comme tu l'as dit, c'est un technicien contre un puncher. Oui, c'est un combat que je vais regarder. En plus, le déroulement de ce combat est potentiellement, va avoir une influence sur le prochain combat de Canelo, parce que Canelo, il a dit que, en gros, si Bivol il gagne, Canelo il veut le reprendre. Par contre, si Bivol perd, Canelo il veut pas le boxer. Donc, ouais, c'est un combat que j'ai envie de voir. L'autre est pas mal aussi. Moi, j'ai une préférence pour Bivol. Je pense que Bivol va gagner, mais ouais, c'est un combat que j'ai envie de voir.
Ok. Moi aussi, franchement, c'est un combat qui m'excite beaucoup. J'ai hâte de voir ça. Ça va être, même sportivement, ça va être très, très intéressant. Il y a un gros match.
Ouais.
Alors, ensuite, c'est un peu plus des thématiques. On va finir sur trois thématiques qui ont été proposées. La première, on n'aura pas du tout le temps de la développer aujourd'hui, mais elle mérite vraiment, pourquoi pas, une vidéo à part entière. Je la vois plus sur une vidéo Box Attitude. C'est, alors il me l'a formulé en parlant des combats, les combats de trop, en parlant de ces boxeurs âgés qui continuaient à boxer. Alors moi, j'ai mis le combat de trop, parce que c'est une expression qu'on dit souvent une fois que le boxeur a fait ce fameux combat de trop, qui se termine dans ces cas-là par une défaite, qui est souvent cuisante. On dit, ah ben voilà, c'était le combat de trop. C'est une expression qui est bien connue dans la boxe. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler, d'en faire un sujet, surtout qu'on a plusieurs tendances aujourd'hui. On a ces boxeurs, et ça ne date pas d'hier, hein, on se souvient très bien de Roy Jones Jr. qui continuait à boxer alors que on voyait tous que ses capacités physiques ne suivaient plus. On pense à des boxeurs qui ont été performants jusqu'à tard, comme un certain Bernard Hopkins. Et aujourd'hui, on a des boxeurs qui rentabilisent leur retraite, comme des Floyd Mayweather, par exemple, qui arrivent encore à faire des combats d'exhibition qui rapportent beaucoup. Donc voilà, moi, je ne vais pas m'étendre forcément. Si Abdel, je veux dire un petit mot, mais on en fera un sujet, je pense.
Ouais, non, pas, pas besoin de d'en rajouter. C'est vrai que oui, t'as toujours le, enfin très souvent les boxeurs finissent avec le combat de trop. T'en as peu qui ont fini voilà leur carrière. C'est à Joe Calzaghe et Mayweather et d'autres qui ont pas fait le combat de trop. Mais c'est vrai que ou même pas KO, mais c'est vrai que oui, des fois voilà, t'as des boxeurs comme Mohamed Ali et d'autres qui ont fait le combat de trop, qui avaient plus pleinement leur capacité d'antan et qui subissent une défaite cuisante. Mais c'est vrai que voilà, c'est une passion, t'as ça qui est en toi et tu veux, c'est que t'as une espèce d'adrénaline et tu veux remonter sur le ring. Donc c'est dur de savoir arrêter au bon moment.
Ouais, t'as donné le bon exemple. Mohamed Ali, on sait aujourd'hui que ce dernier combat, il était atteint de la maladie de Parkinson. Et forcément, bah, continuer à combattre avec une telle maladie, c'est pas très bon pour le cerveau, quoi. Autre thématique qu'on a eue, c'est le retour de Loma. Alors, il m'avait formulé en disant qu'est-ce qu'il devrait encore faire pour être une légende reconnue à sa juste valeur? Donc moi, j'ai reformulé le retour de Loma. Pas encore une légende, point d'interrogation. Que lui manque-t-il, point d'interrogation.
Bah, moi je pense que c'est déjà une légende quand même, hein. Parce que c'est vrai que bah je pense que dans la boxe il y a un avant et un après Lomachenko. Il a été salué par tous les, comment dire, enfin il est reconnu par ses pairs. Tout le monde reconnaît que sa boxe elle est exceptionnelle. Bon, il a beau avoir deux défaites, une contre Salido, une autre contre Teofimo Lopez. Ça n'empêche pas son génie et son talent. Donc c'est vrai que oui, pour que sa légende continue, je pense qu'il faut que qu'il continue à battre des gros champions, qui battent par exemple, qui rafle les titres par exemple à Aîné et qui battre et qui nettoie la catégorie avec Jermontin Davis, avec d'autres. Il en a les capacités, et en plus ça serait des combats où quand même il y aurait du c'est des combats qui là pour le coup sont clairement équilibrés. Donc ouais, c'est clair que c'est un énorme champion, hein, Lomachenko. C'est surtout son style de boxe qui a apporté un avant et un après, je trouve, moi, dans la boxe.
Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, il y a un avant et un après Lomachenko. C'est déjà une légende, ne serait-ce que si on regarde les titres et les records qu'il a fait tomber. C'est un peu fou. Après, je pense que comme c'est un boxeur actuel, les gens ont encore du mal. Là, les gens sont un peu sur les stars, sur le buzz et tout. Et je pense qu'on en reparlera différemment dans 20 ans, 30 ans, 40 ans et en disant, ouais, c'est vrai que Lomachenko.
Ça.
On ira revoir ses combats, on ira revoir des compilations, on dira putain, c'est vrai, extraordinaire. Mais moi, le truc, je pense quand même, si on doit dire un truc qui manque, dans cette ère de réunification totale, si on en voit de plus en plus, il lui faut cette réunification. Quand il l'aura obtenue, là, on pourra dire c'est bon, il peut partir à la retraite sans qu'on ait des frustrations. Dernier point, Abdel. Et je vais te laisser le mot de la fin sur ça. Caleb Plant, qui a 30 ans, je rappelle, donc qui n'est pas vieux, hein, peut-il redevenir champion? En sachant que Caleb Plant, avec sa dernière victoire, là, assez retentissante, s'est classé numéro 1 WBC. Quand je cherchais pour Mbilly, j'ai vu qu'il était numéro 1, parce que Mbilly est numéro 2, et super moyen. Donc, Caleb Plant, je vais juste dire un petit truc qui est assez marrant, c'est que Anthony Dirrell, là, qui s'est fait battre par Caleb Plant, a voulu se la jouer à Bernard Hopkins et se ressortir cette phrase raciste, hein, il faut bien le dire, où il dit aucun blanc ne me battra. Et quand il l'a battu, Caleb Plant a déclaré, ce n'est pas la couleur de peau qui fait gagner un combat. Donc voilà, je tenais juste à te dire cette petite rhétorique qui était plutôt sympathique. Et bienvenue. Bref, ceci étant dit, Abdel, moi, je suis pas un fan de, de Caleb Plant. Voilà, je le dis, hein, je suis pas fan. Mais je te laisse du coup dire ce que tu en penses.
Ouais, bon, bah déjà, si je pouvais réagir à la remarque de son adversaire, Jirel, là, c'est complètement stupide parce que les deux qui ont fait une remarque comme ça, donc lui et Bernard Hopkins à l'époque, les deux ont subi une défaite. La boxe, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de couleur de peau, c'est un sport, c'est un sport et il n'y a pas, enfin, ces remarques-là, elles ont pas lieu d'être. Et après justement, à la fin de ce combat, il a fait un espèce de petit signe comme s'il l'enterre et ça a fait un peu polémique. C'est vrai que ouais, Caleb Plant, franchement, moi j'aimerais bien voir, je sais pas si c'est possible et si ça se ferait, un Caleb Plant contre Mbili. J'aimerais bien voir ce combat, tu vois.
Chouchou.
Je trouve que ça serait un combat ouf, tu vois, au niveau des styles de boxe et tout. Caleb Plant, moi je trouve que c'est un excellent boxeur. Et oui, moi je pense que bien sûr qu'il peut en devenir champion du monde. Oh, ouais, bien sûr. Le seul qui l'a battu, c'est Canelo. Donc il n'a pas été battu par n'importe qui. Donc ouais, bien sûr.
C'est vrai. Non, bien, bien dit, bien dit. Petit avantage, Mbili Plant, qu'est-ce que tu vois?
Moi, je vais soutenir Mbili, je vais dire Mbili. Soyons
Moi,
fous.
je.
Enfin, soyons fous, c'est pas de la folie,
Non, non, moi, je pense que Mbili est plus costaud que Caleb Plant. Il est meilleur sur tous les plans. Par contre, Plant, il a la boxe qui pourrait emmerder Mbili. Tu sais,
totalement.
beaucoup bouger. Ça, on n'a pas encore vu Mbili face à ce profil-là. C'est pour ça qu'il faut. Hassan Endam aurait été un bon test.
Ça aurait été un super combat, ouais.
Bon, bref. Bon, en tout cas, ouais, moi je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est ce qu'il faut à Mbili maintenant. Il faut ce genre de boxeur, ce genre de nom. Ok, bah écoute, on a fait le tour, hein. Ce week-end, tu vas regarder Loma, tu vas te lever?
Entre Loma et Jake Paul, je pense que tu penses mon choix il est vite fait, donc ouais, je vais regarder Loma, bien sûr.
Ouais, mais tu vas te lever du coup pour regarder.
Ouais, je vais me lever pour regarder.
D'accord, bah écoute, très bien. Et puis on se donne des nouvelles rapidement. On essaie de se refaire au moins une émission avant ton combat. Et puis après, bah, les gens auront la chance, si tout se passe bien, hein, ils auront la chance de pouvoir voir ton combat sur Boxe à Kiki. Merci Abdel.
Super. Merci à toi.
Et bah, je vous dis à tous à la prochaine. Fighting!